Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors on vérifie un certain nombre d'informations, parfois des rumeurs, François Cluzet. Il paraît que ce qui est assez insupportable pour vos proches, c'est cette anxiété et les doutes qui vous assaillent en permanence. C'est vrai ?
Non, mais je pense que tous les acteurs, tous les artistes doivent avoir ça. C'est-à-dire que moi, je préfère chercher que de trouver. Alors évidemment, quand vous cherchez, vous demandez ce que vous allez trouver. Et puis aussi, bon, c'est un métier merveilleux, moi, qui me passionne. Mais comme je n'arrive pas à enchaîner les films, j'ai des moments, comme mon personnage dans le film, d'inutilité, dans lequel, une fois que j'ai tourné 854 fois autour de la table de la cuisine, que j'ai relu un bouquin, il y a quelque chose qui est difficile. Alors, je pense que toutes les familles d'acteurs connaissent cette espèce d'inutilité. Alors, on peut la combattre en acceptant finalement des choses.
Mais vous êtes plus exigeant. Mais
non, c'est que j'y arrive pas. Ouais. Je me dis, j'arrive pas à être motivé sur ce truc-là.
Vous nourrissez votre anxiété. Bravo.
Voilà, ça se passe pas mal.
Sinon, vous pouvez faire des extras, par exemple, vous faire passer pour Dustin Hoffman.
J'aimerais bien. C'est mon banquier qui serait content. Ouais. Vous savez que ça m'est arrivé un jour à Montréal.
Oui, il y a une ressemblance.
À Montréal, il y a une vingtaine d'années, je suis dans une pharmacie. Une femme m'a empêché de sortir de la pharmacie en me disant « Non, je sais que tu es de Dustin Hoffman. » Et là, j'ai parlé en français, ça ne le gênait absolument pas. Non.
Il fait semblant d'être
vrai. C'est parce que Dustin Hoffman fait l'inverse, il faut le savoir. Il se fait passer pour François Cluzet.
Ce qui était drôle, c'est qu'il a fait une émission en France quand il était metteur en scène d'un film. Et alors, on lui dit « Ah, vous savez, nous, on a un clampin, là, qui vous ressemble. » Alors, il montre une photo de moi, il dit « Ah ben non, pas du tout. Ah, non, ça, c'est De Niro jeune, ça n'a rien à voir avec moi. » Ça m'a fait plaisir. Je dis, tiens, un nouveau nom.
Non, De Niro jeune.
C'est pas mal.
Patrice. Alors, vous dites que vous n'avez réussi qu'à moitié parce que pour percer au cinéma, vous avez dû un peu abandonner le théâtre et vous avez quand même très envie d'y revenir et vous allez y revenir d'ailleurs. Enfin, vous y pensez.
Oui, bien sûr. Bah, la scène, c'est l'art de l'acteur. Il n'y a pas de montage. Vous gardez la scène pendant une heure et demie. C'est vous qui êtes responsable du rythme. Et puis là aussi, on a une certaine liberté face aux auteurs. Il y a des auteurs actuels, mais aussi classiques qui sont devenus des chefs-d'œuvre et c'est pas par hasard. Tout Marivaux, Racine, Tchekhov, Molière, bien sûr. C'est fantastique. Quand je me rappelle avoir joué une pièce de Marivaux comme ça et on l'avait joué une cinquantaine de fois. À la dernière, je découvrais encore la pièce. Vous comprenez, parce que c'est d'une telle densité alors que certaines pièces, au bout de la quatrième lecture, t'as fait le tour et tu dis merde, il va falloir la jouer 200 fois.
Généralement, elle marche bien en plus.
En plus, ça marche bien et tu peux pas quitter le théâtre.
Edouard.
Oui, alors moi j'ai lu que quand vous acceptiez un film, vous regardez quand même quels sont vos partenaires, et que quand il y a un type vraiment narcissique, ou j'ai vraiment un peu difficile, vous pouvez refuser un film pour ne pas subir l'autocentrisme de ce genre d'acteur.
Ouais, enfin disons que les acteurs, il y a aussi une famille, si vous voulez, une famille qui grossit du côté de ceux qui vivent les situations plutôt que de les jouer, quoi. Mais très longtemps, certains acteurs maîtrisaient tellement leur sujet que finalement ils passaient leur temps à composer et à jouer tout seul. Et puis aussi les one-man shows et tout ça a amené des acteurs, et souvent chez les humoristes, qui jouent tout seul, qui ont l'habitude de jouer tout seul. Bon, moi je suis plutôt du côté du partenaire. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait venir les gens dans les salles, c'est si le film est bon, pas s'il y a machin ou truc chouette. Mais pour que le film soit bon, il faut filmer les échanges entre les acteurs. Et pour ça, il faut des acteurs généreux. Je joue pour toi, tu joues pour moi. Voilà, c'est ce qu'on avait réussi avec Omar, par exemple. Et ce que j'essaye de réussir aussi tout le temps, c'est donner à son partenaire qui vous donne, et finalement le metteur en scène peut filmer cet échange. Quoi. Mais après, vous savez, comme je disais tout à l'heure, tu choisiras quand t'auras le choix. N'exagérons pas.
Trouver des acteurs pas narcissiques, c'est pas non plus facile quand même.
Non, les acteurs par définition sont exhibitionnistes, mais vous pouvez être exhibitionniste sans être amoureux de vous-même.
C'est ça.
Amoureux de vous-même, narcissique, égocentrique. Alors là, c'est difficile à vivre pour la famille. Là,
non, pas tout.
Régis,
à une période de votre vie, vous avez failli abandonner le métier de comédien. Vous êtes même retiré pour faire de la sculpture et de la soudure.
Oui. Bah, alors, plutôt de la soudure que de la sculpture, parce que vous auriez vu les trucs.
Il y a l'histoire d'une il y avait une chaise que vous avez fabriquée qui était tellement bancale que personne ne pouvait s'asseoir dessus.
Oui, je déconseillais qu'on s'assied dessus. Ne me la casse pas. Oui, mais je veux juste l'essayer. Non, ça ne s'essaye pas.
C'est une œuvre d'art.
Alors, de la soudure, oui, c'était à l'époque où je vivais avec Marie Trintignant. On était partis dans le Midi pendant 4 ans. J'en avais un peu marre de ce qui se passait dans le métier à ce moment-là, qui est une espèce de super compétition entre tous les acteurs de ma génération. Et je me dis, oh, vous faites chier, je vais les laisser passer devant, je ne veux pas me battre avec ça. Et puis j'avais la chance de vivre cette histoire d'amour magnifique. Donc on est parti dans le Midi, et là, d'un seul coup, m'a pris l'envie du manuel. Quoi. Oui, alors j'ai découvert en autodidacte le chalumeau, tout ça, c'est formidable. La bouteille d'acétylène, la bouteille d'oxygène, tu dis, ça va me péter dans la gueule. T'es content quand même.
Je m'en fous.
Tu fais ta soudure, machin, truc chouette, t'es vachement content, tu fous ça dans l'eau pour que ça refroidisse, et puis 10 minutes après, tu vois le truc qui tombe, tu te dis, ah merde, tu recommences. Mais j'ai adoré ça, et j'ai l'impression que c'est une façon de se vider la tête que de faire quelque chose de ses 10 doigts.
On a 2-3 chaises à réparer dans le studio.
Ouais.
Oui, un damol.
Oui, alors François, vous nous avez expliqué que dans votre jeunesse, vous avez interprété les Beatles avec Maestria. Est-ce que ça, vous avez fait de même avec Claude François?
Mais vous savez pas si bien dire, parce que moi, mon premier héros, c'était Claude François. Mon frère, c'était les Beatles. Moi, Claude François. Et c'est si j'avais un marteau, quoi. Je suis incollable.
Déjà la soudure.
On
vient
la soudure.
C'est ça.
Décidément.
Vous rêviez de ressembler à Claude François.
Je rêvais d'être la même star que lui.
Vous écoutez RTL.